vagabonde. Je suis partout un étranger, mais je sais bien qu'en l'autre monde, Dieu va m'offrir pour me loger. Je vais là-bas revoir mon père. Fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière. Maison à moi, je vais trouver. J'achèverai bientôt.
Toute la communauté. On a éteint les trucs là? Non. On étudie chaque mois un mot et les parents ont des soirées familiales durant lesquelles ils parlent de ce mot avec leurs enfants. Ils en parlent ensemble et ils prennent pour base la prédication que j'apporte. Par exemple, cette fois-ci, je vais apporter donc une prédication et la Bible se laisse inspirer par les Écritures et ce mois-ci, c'est le mot courage qu'on va étudier. Donc, le mot courage. Alors, on va prendre un texte dans Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui est-ce qui a peur et qui manque de courage? Je trouve que ce verset est d'une grande sagesse. Il y a les deux mots qu'il faut, il y a le mot peur et il y a le mot courage. C'était la question que posaient les officiers aux jeunes gens dans l'armée d'Israël. Peur ou courage? Mes frères et sœurs, depuis que nous sommes conscients d'avoir été sauvés par Jésus-Christ, nous avons pris conscience de beaucoup de choses que le monde ignore. Et par exemple, nous avons pris conscience que chaque jour, des milliers de personnes meurent sans avoir entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, de leur Sauveur. Et pour eux, c'est terrible. Ils vont dans le mauvais côté du séjour des morts. Bon, maintenant, nous savons aussi, nous avons appris que l'Évangile est aussi prêché là-bas, mais la condition de salut est très différente, très moindre. Le niveau d'exaltation sera moindre pour les gens qui recevront l'Évangile là-bas en bas. Et puis pour nous aussi, c'est très, c'est pas très glorieux de ne pas avoir été des témoins. Beaucoup de gens ont peur de témoigner de plus en plus. Ils ont peur parce que c'est un petit peu comme le porte-à-porte, hein. Quand on fait le porte-à-porte, on se prend des portes, hein, des noms catégoriques, des gens qui se moquent. Il arrive un moment où les gens se lassent. Hier, je parlais avec une chrétienne qui est venue nous visiter. Elle nous disait avec son accent espagnol, autrefois je sortais, je ne vais pas vous faire l'accent espagnol, mais elle nous racontait qu'elle sortait pour évangéliser, elle allait avec Zoé, avec d'autres chrétiennes, avec Camélia, tout ça, et puis elle donnait des tracts pour inviter les gens à venir aux réunions, et puis sur ces tracts il y avait une petite exhortation, et puis quand les gens acceptaient de parler un moment, elle parlait avec, et puis elle essayait de les conduire à Jésus, à leur faire comprendre, que ça soit n'importe où dans la rue, une terrasse de bistrot, dans le métro, dans les gares, partout, on trouve les gens partout, là où ils sont. Elle me disait, on ne voit plus personne qui fait ça. C'est vrai, c'est très rare d'être arrêté par quelqu'un avec un tract, avec une parole du Seigneur aujourd'hui. Je sais, il faut du courage pour aller au-devant des gens, pour leur parler de Jésus-Christ de nos jours, je sais. Et je pense qu'il y a une certaine crainte, une espèce de peur d'aller au combat pour gagner des gens à Jésus. Parce que quand on fait ça, on s'attaque à toutes sortes d'esprits, pas seulement à des gens, mais à des esprits d'incrédulité qui sont violents, qui peuvent être violents. Et voilà, alors... Puis on n'aime pas être insulté. En général, très, très souvent, ça arrive qu'on soit insulté quand on parle de Jésus aux gens. Aujourd'hui, de nos jours, c'est comme ça. Peur ou courage? L'officier de l'armée d'Israël disait, qui a peur, qui manque de courage? Alors qu'il s'en aille chez lui afin que ses frères ne se découragent pas à cause de lui. Peur et courage. Mes frères et sœurs, il n'y a pas des gens qui ont peur et puis des gens qui ont du courage. Il ne faut pas penser comme ça. Ça n'existe pas. Le courage authentique, il requiert l'existence de la peur. Absolument. Il faut absolument que vous le sachiez, que vous en soyez certain et que le diable cesse de vous mentir à ce sujet-là. Si une personne n'a pas peur, elle ne peut pas faire preuve de courage. C'est en surmontant votre peur dans une action que vous allez montrer votre courage. Vous avez du courage? Tous là. Et vous avez peur aussi. Tous, moi avec. On a tous peur. Je parlais du cas de l'évangélisation, mais c'est pour n'importe quoi, dans tout ce qui concerne notre vie, pour n'importe quel sujet, la peur et le courage, c'est toujours là. C'est toujours là. Alors le courage, c'est quoi? Eh bien, c'est un trait de caractère que Dieu a donné à chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Ce trait de caractère, il vous donne une capacité. Quelle capacité? La capacité de surmonter votre peur. La peur de faire face au danger, la peur de faire face à l'inconfort aussi, de faire face à votre responsabilité plutôt que d'être paralysé par la peur, la crainte. Qui a peur ? Celui qui a du courage. Qui a du courage ? Celui qui a peur. C'est comme ça. Et si vous avez une grosse dose de peur, c'est que vous avez une grosse dose de courage. Ne croyez rien d'autre. On n'est jamais éprouvé au-delà de nos forces. C'est pas Jésus qui dit ça ? Bien sûr que c'est Jésus qui dit ça. Donc si vous avez une grosse dose de peur, c'est que vous avez quelque part en vous-même une grosse dose de courage. C'est à vous de manifester ce courage. Le courage, c'est pas un mystère, mais quand même il faut y réfléchir. Hein, il ne suffit pas de dire « Ah ben j'ai pas beaucoup de courage ». Non, 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 non. Il faut y réfléchir. Celui qui est courageux, c'est celui qui fait ce qui est juste. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Le courage, ça n'a rien à voir avec la témérité. Je dirais même, ça n'a rien à voir avec l'audace. David, quand il relevait le défi que lançait le géant Goliath, il n'était pas téméraire. Il ne se lançait pas dans les bras de la mort comme ça au hasard, parce qu'il risquait sa vie là quand même. Hein? Il était tout petit, il n'était pas entraîné comme Goliath, mais il ne s'exposait pas bêtement. La témérité n'est pas une valeur noble. J'ai lu quelque part que la témérité, c'est la sœur illégitime du courage. Je trouvais ça très joli. Nous avons la foi que Dieu est avec nous. Et cette foi, elle est basée sur des promesses de Dieu qui sont écrites. Et elle est aussi basée sur notre conscience qui ne nous accuse pas par rapport aux exigences de Dieu. Parce qu'il y a des promesses de Dieu, il y a aussi des exigences de Dieu. Alors les promesses de Dieu ne sont pas valables pour nous si nous avons notre conscience qui nous accuse. Si notre conscience nous accuse, on ne peut pas être certain que Dieu va nous bénir. Vous comprenez ? Alors là, oui, il faut faire attention. Là, si on agit, alors on est téméraire. Ce n'est pas du courage, c'est de la témérité. Si on agit en n'étant pas en ordre avec Dieu, en voulant faire quelque chose, même de juste, même de noble, ben, c'est de la témérité, c'est pas du courage. Vous voyez la différence? Donc, il nous faut avoir la foi sur les promesses, au sujet des promesses de Dieu, mais aussi au sujet de notre conscience. Est-ce que notre conscience nous accuse ou pas? Est-ce qu'on est en ordre avec Dieu ou pas? Par rapport à ses exigences. Et si vous êtes en ordre avec Dieu, eh bien, vous n'avez absolument pas à vous soumettre à vos peurs. Elles sont là, la peur est là, mais on n'a pas à s'y soumettre. On peut s'y soumettre si on veut, mais on n'est pas obligé. Vous pouvez surmonter votre peur par votre courage, sinon c'est de la témérité. David, il affrontait un homme qui était plus fort que lui, qui était mieux entraîné que lui, mais Goliath, il n'avait pas l'assurance que David avait. David, il avait une assurance, c'est qu'il était oint, il se savait oint, il se savait choisi par Dieu. Ça lui donnait une grande force. Et même, il savait que s'il devait y laisser sa peau, son combat, c'était pour une grande cause. C'était pour une grande cause. Quelqu'un qui risque sa vie pour une cause qui n'en vaut pas la peine, il ne fait pas preuve de courage, il fait preuve de témérité. Ce qui était juste, c'est que le nom de l'Éternel ne devait pas être sali par ce chien philistin. Ça, c'était juste, c'était une grande cause. David, il avait une noble cause. David, il avait la foi dans les promesses de Dieu. David, il n'avait pas une conscience qui l'accusait. Donc, David était réellement certain que Dieu était réellement avec lui. Il en avait absolument la certitude, parce qu'il y avait ces trois choses. Il avait une noble cause, il avait foi dans les promesses de Dieu. Et puis, les exigences de Dieu ne le dérangeaient pas parce que sa conscience ne l'accusait pas. Donc, il pouvait y aller avec courage. On ne vainc pas la peur par autre chose que du courage. La témérité, ce n'est pas bien. Alors, il peut surmonter sa peur. Il peut montrer son courage. Souvent, dans les guerres, enfin, la plupart du temps même, les soldats sont obligés de foncer dans le tas. Ils sont fusillés, hein. Ils sont obligés de foncer dans le tas et ils meurent et d'une façon terrible, mais vous les voyez sortir de la tranchée et courir, mais c'est effrayant. Moi, chaque fois que je vois ces vieux films où on voit ces Américains qui débarquent, qui sautent dans la mer et qui courent sur la plage, qui se font descendre comme ça, c'est terrifiant ça. Shakespeare a dit, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Shakespeare qui dit, Il dit, se précipiter au cœur d'une bataille et tomber au champ d'honneur est assez facile et n'excède pas les moyens les plus simples des rustres. Parce qu'ils sont forcés, parce qu'ils sont obligés. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? C'est pas que c'est facile. Mais étant donné qu'ils sont obligés, s'ils ne le font pas, ils sont déserteurs. S'ils sont déserteurs, on les tue. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Donc c'est plus même du courage. C'est terrible à dire, mais c'est pourtant vrai. Il faut, c'est vrai que ça fait drôle de dire une chose comme ça, mais si on y réfléchit. Je dis ça parce que quand on a besoin de faire preuve de courage, il ne faut pas se laisser impressionner par des faux courages. Il faut regarder qu'est-ce que c'est le courage après la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le vrai courage, c'est de vivre quand il faut vivre, et puis c'est de savoir mourir seulement quand il faut vraiment mourir. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et mes frères et sœurs, je crois que le courage, c'est la connaissance de ce que tu dois craindre et de ce que tu ne dois pas craindre. Tu dois craindre Dieu, mais tu ne dois pas craindre les situations, tu ne dois pas craindre les événements, tu ne dois pas craindre les démons, tu ne dois pas craindre le péché, tu dois craindre Dieu, oui, mais pas... La vraie connaissance, c'est de savoir ce que tu dois craindre et ce que tu ne dois pas craindre. Le problème de notre génération, c'est que c'est une génération de ramollis, une génération qui manque de fermeté, une génération de gens qui sont de... Enfin, je parle pour nos pays ici, hein, comme disait Alain dans la prière, merci mon Dieu, on n'est pas persécuté, tout va bien, alors que partout les chrétiens, beaucoup dans le monde sont persécutés. Mais dans nos pays ici, eh bien voilà, on est mollement installés. Mais tout le monde, un jour ou l'autre, se trouve devant un choix, et ce choix peut impliquer un danger. Et le manque de fermeté, justement, eh bien, ça conduit les gens à la démission. Et voilà pourquoi on voit l'Église qui démissionne de plus en plus, et les pays, les gouvernements, tout ça. Parce que c'est, quand on dit, voilà, le ministre du culte les musulmans d'Algérie est venu, il a détruit 10 églises chrétiennes dans son pays, là-bas en Algérie, et puis ensuite il a reçu une grande pompe ici par nos autorités pour pouvoir venir inaugurer une mosquée. Je dis, c'est du baissage de pantalon de notre part. Mais ce n'est pas seulement dans le gouvernement, c'est pas seulement l'état du gouvernement, c'est l'état aussi de l'Église. C'est l'état du monde, des gens, des vrais gens. On est comme ça, on est devenu mou, on manque de fermeté. On manque de fermeté. Mais personne n'est que lâche. On a tous possibilité d'être lâche, mais pas forcément. On n'est pas obligé d'être lâche, mais on n'est pas que lâche quand on est lâche. Ça peut arriver qu'on soit lâche, mais on n'est pas que lâche. Être lâche aussi, c'est pas se battre, c'est ne pas se battre dans les règles. Il y a des règles. Tu veux pas qu'on construise des églises dans ton pays? Ben nous, on veut pas que tu construises des mosquées dans le nôtre. Il y a des règles. Dans les duels, il y a des règles. Dans la guerre, il y a des règles. Il y a des gens, à l'heure actuelle, qui sont jugés pour crimes de guerre parce qu'ils n'ont pas agi dans les règles. Ils ont pas, c'était pas du courage. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas noble ce qu'ils ont fait. Être lâche, c'est faire du mal à quelqu'un qui est dans la faiblesse. On est très courageux, hein, pour s'attaquer à quelqu'un qui est plus faible que nous. C'est blesser une personne qui ne sait pas se battre. C'est blesser une personne qui ne peut pas se battre. Ou qui ne veut pas se battre. Par exemple, nous autres chrétiens, on nous a dit, hein, Jésus nous a dit, si on te tape sur la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Ou vice versa, hein. Moi, je dis toujours, il faut tendre la joue gauche ou la joue droite, je ne m'en rappelle plus. Si on me fasse sur la joue gauche, je n'ai pas le droit de... Je ne m'en rappelle plus. Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. C'est vrai. Mais c'est lâche de nous attaquer sachant que nous ne voulons pas nous battre. Alors, mais ne soyons pas lâches. Nous pouvons aussi nous battre, mais d'une autre manière, spirituellement, avec les armes de la prière, avec les armes de l'esprit, avec la force la plus grande, celle de l'amour. Être lâche, c'est faire du mal à quelqu'un qui ne sait pas, ou qui ne peut pas, ou qui ne veut pas se battre. Vous voyez, dans le mot courage, il y a beaucoup de nuances. Et tout ce qui semble être courageux n'est pas forcément courageux. Il y a un grand et un noble courage, et puis il y a aussi le courage des voleurs. Moi, je trouve que c'est terrible, mais je trouve qu'ils sont terriblement courageux, les voleurs, non ? De rentrer dans une maison, comme ça, la nuit, pour aller voler quelque chose, mais c'est... Ils n'ont pas la trouille, hein, ils sont courageux. Non, ce n'est pas du courage. Le voleur doit surmonter sa peur, celle d'aller voler son prochain. Ça fait peur. Et ce qu'il fait en surmontant sa peur, ce n'est pas du courage. Qu'est-ce qui motivait l'acte de David? Est-ce que c'était l'orgueil? Est-ce que c'était l'envie? Non. Certains, ils vont oser des trucs terribles par orgueil, ou ils vont oser des trucs terribles par envie. Celui qui viole une femme ou qui viole un enfant, il a peur d'être pris, il a peur d'être dénoncé, mais il le fait quand même. Il surmonte sa peur par le courage? Non. Il ne faut pas tout mélanger. Il surmonte sa peur avec son inconscience. C'est un fou. C'est un sans conscience. En tout cas, pendant le moment de sa pulsion, c'est un sans conscience. Vous voyez, la peur, elle est nécessaire pour retenir certains actes. Mais si la cause est noble, alors la peur doit être surmontée. Mais ce qu'on utilise pour vaincre la peur n'est pas forcément du courage. Il faut, les parents là, il va falloir bien expliquer tout ça à vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on dit aux gens, les gamins dans la cour de récréation, ils disent « t'es pas cap de te serrer la gorge avec un mouchoir, t'es pas cap de te gratter jusqu'au sang, t'es pas cap, t'as pas de courage. » C'est pas du courage, c'est de l'imbécilité. Vous voyez? Bien sûr que ça fait peur de se couper, mais c'est pas du courage que de le faire, c'est de l'imbécilité. Et le gamin, il sait pas, il faut lui apprendre. La différence, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous étudions une fois par mois un mot spécial, et ce mot, c'est le courage. Mes frères et sœurs, nous avons tous en nous de la peur, du courage, de l'inconscience, de la témérité. Nous avons tous ça en nous. On a tous ça en nous. Et l'Esprit de Dieu qui vient en nous, il nous instruit afin que nous utilisions les armes adéquates dans les situations où nous nous trouvons. Pour nous, enfants de Dieu, le courage, il doit être mis au service de ce qui est juste. Sinon, ce n'est plus du courage. Je vous disais qu'il faut être courageux pour aller prêcher l'évangile, chasser les démons, chasser les maladies, et faire toutes ces choses-là. On peut être agressé, toutes sortes de choses peuvent arriver. Par exemple, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1, 15, 18, qu'il y en a qui prêchent par envie, c'est-à-dire pour être vu, par esprit de dispute, simplement pour l'apparence, l'orgueil. Il dit, bon, tant pis, pourvu que l'évangile soit prêché. Mais n'empêche, vous voyez, ils ne sont pas en train de vaincre leur peur, par exemple, du public ou la peur des démons. Ils sont en train de s'attaquer à des démons quand ils évangélisent, quand ils prêchent. Mais ils n'en ont pas peur. Mais ce qui les motive, c'est parce qu'ils veulent paraître. C'est parce qu'ils ont envie, peut-être, de l'argent qui est dans les poches de leurs auditeurs, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du courage qui les anime. La parole de Dieu, elle nous instruit dans ce qui est juste, et plus on avance dans la connaissance de la parole de Dieu, plus nous connaissons donc ce qu'il veut, et quand on sait ce que Dieu veut, et qu'on ne le fait pas, alors on démontre une absence de courage. On montre la suprématie de la peur sur le courage. On a le courage, on a la peur, mais c'est la peur qui a suprématie. C'est la lâcheté qui a suprématie face au combat. Quand on sait ce que Dieu veut, mais qu'on ne le fait pas, c'est qu'il y a un manque de courage. On démontre, ou alors on démontre la présence de l'inconscience. Une espèce de folie, un endormissement. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est inconscient. La Bible nous dit que l'Église dort, elle est inconsciente. Elle est insouciante, elle est inconsciente. Elle est dans une insouciante sécurité parce qu'elle est inconsciente. Elle dort. Et comme les disciples au jardin de Gethsémané, elle dort, la même chose, du même sommeil. Le même sommeil. Les disciples, ils savaient que quelque chose se tramait. Ils voyaient bien que la tension montait. Jésus les avait avertis qu'il allait mourir. Ils savaient tout ça. Ils étaient tendus, ils en étaient tristes, attristés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réfugiés dans le sommeil. C'est ce que nous dit la Bible. Luc 22, 45, ils se sont réfugiés dans le sommeil. L'Église aujourd'hui, elle ne s'endort pas sur ses victoires, elle s'endort de tristesse. Depuis qu'Israël est une nation, le monde est ébranlé. Les démons sont lâchés, la mort et le séjour des morts sont lâchés, parcourt la terre, nous sommes sous le quatrième sceau, il n'y a jamais eu autant de morts à cause des guerres depuis 45. Je dis bien depuis 45, il n'y a jamais eu autant de morts sur la terre par les guerres, ni par les épidémies, les catastrophes naturelles, les corruptions dans tous les domaines, les famines, etc. Je vous en passe. C'est l'horreur et les chrétiens, plus que les autres, ont conscience que quelque chose est en train de se préparer. Alors au début, ils étaient zélés. Moi, je me suis converti à peu près, en 68. Les chrétiens étaient encore zélés face à toute la... On voyait Israël qui Jérusalem, la prise de Jérusalem, toutes ces choses. On voyait Moshe Dayan, tout ça. On dit, ah, c'est la guerre des six jours. Ah, ça avance, c'est extraordinaire. Dieu est en train... Les prophéties sont en train de s'accomplir. Alors, les chrétiens allaient distribuer des tracts, inviter les gens aux réunions, faire de l'évangélisation, témoigner partout, faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Ils étaient encore zélés. Et puis ensuite, ils ont été accablés parce que les nouvelles se sont accumulées de plus en plus négatives. Ils ont commencé à être accablés à cause de ça. Et ils sont tombés dans une espèce de tristesse, voyant que ça traînait. Moi, je me rappelle, en 68, quand je me suis converti, on disait, on passe pas la fin de l'année, Jésus revient. Puis voilà, maintenant, on est en 2011 et Jésus est toujours parvenu. Puis il y en a, ils se sont lassés. Notre frère Alain William Moore nous disait vendredi passé, on ne parle plus du retour de Jésus dans les églises. Parce que ça lasse les gens n'arrivent plus même à y croire. Ils disent, oh là là, est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment... Puis ils sont lassés, ils sont tristes, ils sont fatigués, ils voient que tout va mal, tout va de travers. Non seulement dans le monde, mais dans leurs affaires personnelles, ça ne va plus. C'est difficile, il y a la crise, etc. Là, je viens de voir encore là tout à l'heure, à Tel Aviv, la bourse ce matin, là, tout de suite, ils ont fermé tout de suite. C'est tombé de 6% à cause de ce qui se passe en Amérique. Mais c'est grave de grave. Et les gens sont terrassés dans la négativité. Alors, ils sont tristes et ils sont réfugiés dans le sommeil. C'est-à-dire, ils ne veulent plus être conscients de tout ça. Dans l'inconscience, en attendant la venue de Jésus. Ils sont devenus inconscients. Vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure, il y en a qui font des choses, ils ont peur. Mais momentanément, ils se rendent inconscients parce qu'ils veulent ce qu'ils désirent, ils le veulent, alors ils se rendent inconscients. Eh bien, beaucoup de chrétiens aussi, ils veulent vivre, ils veulent, mais ils ne veulent plus être conscients de ce qui se passe, alors ils se réfugient dans un sommeil spirituel. Ils croient qu'ils sont réveillés, parce qu'ils font du bruit dans leur réunion, mais ils sont endormis, ils se sont endormis de tristesse, comme c'est écrit les disciples dans Gethsémané, endormis de tristesse. Le monde leur fait peur. Comme Goliath faisait peur à Israël. Goliath faisait peur à Israël. Il disait, envoyez-moi quelqu'un qui va se battre avec moi. Si je gagne, vous avez l'armée d'Israël a perdu. Si je perds, c'est notre armée qui va se rendre. Même le roi avait peur. Il n'osait pas y aller lui-même. Et puis, il n'osait pas envoyer quelqu'un. Et puis, il n'y avait personne qui osait aller. Parce que non seulement ils avaient peur de Goliath, mais ils se disaient, si jamais je perds, je vais passer pour un orgueilleux. L'histoire va retenir mon nom d'une façon négative. Ils avaient toutes sortes de peurs. Vous voyez, la peur. C'est terrible. Ils avaient peur du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que va... Et c'est pareil aujourd'hui. Quand je parle à des chrétiens qui dorment, on est arrivé encore dernièrement, tout d'un coup, je vois qu'ils se réveillent un peu. Ils ont les yeux qui s'allument. Ah, mais oui, ça semble vrai ce que tu dis là. Ah, mais je crois bien que c'est vrai. C'est juste. Ah, mais oui. Ah, oui. Mais je vois qu'au bout d'un moment, leurs yeux s'éteignent de nouveau parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que va dire monsieur le pasteur de mon église? Qu'est-ce que vont dire les autres chrétiens? En fait, ils ont plus peur de leur église que du diable. C'est terrible. C'est terrible. Plus peur de la réaction de leur église. Bon, c'est normal d'avoir peur de la réaction de l'église. Regardez les parents de l'aveugle, ils avaient peur d'avouer même que leur fils avait été guéri. Aux religieux, ils avaient peur parce qu'ils disaient, si on avoue, eh ben, on va être jeté dehors. Ils avaient peur. Mais surmontez votre peur avec votre dose de courage. Vous avez du courage. Surmontez votre peur avec votre dose de courage parce que votre combat, il est noble, il est juste. Il est selon les exigences de Dieu. Ne pas agir, c'est faire preuve de lâcheté. Ce n'est pas prendre la défense de celui qui est en danger, parce que en fait, ne pas réveiller l'Église, c'est de la non-assistance à personne en danger. Vous savez ça? Ne pas évangéliser, c'est de la non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous savez ça? Tous ces gens que vous dites que vous les aimez bien, mais vous leur parlez jamais de Jésus. C'est de la non-assistance à personne en danger. S'ils meurent, ils vont où? Alors, réveiller l'Église, c'est non seulement juste, mais c'est nécessaire. Autant que de tuer Goliath. Ne pas écouter ce que l'Esprit dit aujourd'hui et ne pas faire ce qu'il dit de faire, ça s'appelle de la désertion. Ça s'appelle de la trahison. Nous sommes l'armée du roi des rois, on chante. Ne pas faire ce que Jésus nous ordonne, c'est de la désertion. Alors, bien sûr, quand on secoue l'Église pour la réveiller, eh ben on se met en danger. Hein. Vous avez vu, chaque fois que je lève un peu la voix, hop, ça y est, je reçois des parpaings dans la tronche. Mais bon, voilà. Bien sûr qu'évangéliser, ça va vous mettre en danger. Mais la victoire, mes frères et sœurs, elle est assurée parce que le combat, il est juste, il est nécessaire et c'est une cause noble. C'est comme le combat contre Goliath. Le nom du Seigneur est glorifié quand vous vous battez dans cette situation-là. Et Dieu sera avec vous. Et l'honneur vous viendra de lui. Même si vous êtes sali par les autres, c'est pas grave. C'est Dieu qui va vous honorer. C'est ça qui compte, non? Alors, en ce moment-là, je viens de terminer mon nouveau livre, Enoch, les commentaires du plus vieux livre du monde. Voilà ce que Dieu m'a donné. Ce livre a 5300 ans, le livre du prophète Enoch. Et en terminant ce travail, bien, c'est comme si l'Esprit arrêtait mon discours, là. Et puis, je me sens réduit à me lamenter. À me lamenter à cause de l'incrédulité, à cause de la méchanceté, à cause de l'ignorance, à cause de la raideur du cou des gens. Parce qu'ils ne veulent pas rechercher la connaissance. Je vais vous dire, on a des milliers et des milliers d'auditeurs et de lecteurs sur Révélation Bible. Mais presque aucun, allez, sur, je vais prendre le cas, on va prendre 1 sur 10, on va prendre sur 10. Mettons sur 10 de mes amis, je ne sais pas s'il y en a un qui va lire sur Internet. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de mes amis qui vient au château et que je dis quelque chose, je m'aperçois qu'ils n'ont pas lu l'oracle. Ils sont mes amis. Ils n'ont ni lu l'oracle, ni regardé Internet, ce que le Seigneur nous a donné, rien. Je suis réduit à me lamenter à cause de l'incrédulité, de la méchanceté, de l'ignorance, de la raideur du cou, parce qu'ils ne veulent pas rechercher la connaissance. Ils s'en foutent. Ils dorment. Ils ne veulent pas comprendre la grande connaissance lorsqu'elle leur est donnée avec clarté. Parce que mes frères et sœurs, je la donne d'une manière claire quand même. Aussi claire qu'une parole peut être donnée. Je me soucie de ça. J'ai demandé à ceux qui ont lu et relu pour pouvoir faire les corrections. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous pouvez me dire, voilà, ça veut dire quoi? Et c'est très compréhensible. Alors, je le dis, mes frères et sœurs, je le dis. Si vous ne pouvez pas comprendre, c'est parce que vous ne demandez pas, c'est parce que vous ne frappez pas à la porte, parce que vous ne cherchez pas. Et c'est pourquoi la majorité des gens restent dans les ténèbres, ne viennent pas à la lumière parce qu'ils ne veulent pas connaître. Ils ne veulent pas. La connaissance augmente dans le monde, mais elle augmente aussi dans l'Église. Mais le monde, lui, au moins, il sait profiter de la connaissance qui augmente chez lui. Même dans le fin fond de l'Afrique, des gens illettrés, des gens qui n'ont jamais vu de blanc,
Ils ont un téléphone portable. Le monde sait très bien tirer profit de la connaissance qui augmente chez lui. Mais dans le monde chrétien, on ne veut pas chercher, on ne veut pas comprendre, on veut rester dans son petit truc, là, bien confortable, on a peur d'être dérangé. On veut pas. Mes frères et sœurs, ne vous imaginez pas que parce que vous êtes entrés dans le chemin étroit, vous avez tout fait. Non. Vous êtes arrivés dans ce chemin étroit par la parole de Jésus. C'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous a donné la parole, c'est lui qui vous a donné d'avoir la possibilité de vous repentir, c'est lui qui a mis en vous une foi nécessaire, une foi ferme en lui. C'est lui qui vous a expliqué, qui vous a fait comprendre que vous ne méritez rien, que c'est tout à cause de ses mérites à lui. Mais maintenant que vous êtes sur ce chemin, il vous revient de marcher résolument sur ce chemin, d'aller de l'avant sur ce chemin, de ne pas rester au rudiment de la connaissance. Aux choses du béaba comme des bébés. Il faut marcher résolument avec constance, avec constance. Dans notre communauté, on a institué, on a fait depuis 2007, chacun a dans sa chambre un autel de prière. Il prie, mes frères et sœurs prient tous les jours. Maintenant, je voudrais que vous mettiez vraiment devant Dieu, je ne veux pas les contrôler derrière vous, mais que vous mettiez chaque jour au moins une heure pour la lecture de la parole de Dieu, des écritures que Dieu me donne, que les choses que le Seigneur me révèle, d'aller lire, d'aller chercher, de prier, de chercher à comprendre, qu'on soit un seul cœur, une seule âme, chercher à comprendre, à savoir, à apprendre, la connaissance augmente. Mais si vous ne profitez pas de cette connaissance, on peut rigoler, des noirs illettrés qui ont leur portable au fin fond de la brousse, ça va. Mais l'Église, où est-ce qu'elle en est, cette pauvre Église? Il vous revient de marcher résolument, avec constance, aller de l'avant. Vous avez à persévérer jusqu'à la fin. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, je ne veux pas faire une doctrine en disant, c'est celui qui persévérera qui sera sauvé. Mais pourtant, c'est quand même bien écrit. Vous voyez, mes frères et sœurs, il ne suffit pas de rentrer là, puis de s'asseoir, puis de croire, voilà, alléluia. Parce que c'est ainsi que vous aurez la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre façon pour être sauvé. Croire implique le fait de marcher, de progresser, d'aller de l'avant, de suivre la colonne de feu. La colonne de feu se déplace, elle avance, elle va plus loin, elle se rapproche tout le temps de la terre promise et la connaissance augmente et vous devez connaître cette connaissance, vous devez la savoir, vous devez la voir, vous devez l'acquérir, vous devez la cultiver. Alors c'est vrai que tout autour, le monde fait peur, les gens font peur, les démons font peur, la mort fait peur, tout fait peur. Ce sont des réels Goliath, mais vous avez été oint, vous avez été choisi, et votre cause est noble, et votre conscience a été purifiée par le sang de Jésus. Alors, surmontez vos peurs par votre dose de courage. Il n'est pas question ici de témérité. Il n'est pas question de risque démesuré et imbécile. Ceux qui manquent de courage sont ceux qui laissent la peur grandir en eux. Souvenez-vous de cela, le courage, c'est la connaissance de ce que vous devez craindre et de ce que vous ne devez pas craindre. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez, discutez-en en famille, parlez-en avec vos enfants, grandissez dans ces choses-là, entretenez-vous avec ces paroles, fortifiez-vous avec ça, ne vous laissez pas abattre par ça, parce qu'évidemment, on peut aussi choisir de se laisser abattre, hein, dire « Ah bon, ben alors là, j'en suis que là, ben c'est épouvantable, alors vraiment, je savais que j'étais minable, mais je n'avais pas mesuré à quel point, moi, alors vraiment, je suis trop minable, bon, ben voilà. Pff, c'est désespéré, après tant d'années, ben non, courage !» Amen. Relevez votre tête, relevez vos cœurs et allez battre vos Goliaths. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se lève et on remercie Dieu. Les musiciens, approchez-vous s'il vous plaît. Jésus, je te remercie pour ces quelques mots que j'ai pu donner à mes frères et sœurs au sujet de ce mot, courage. Et je te prie, mon Dieu, je sais bien que je n'ai pas tout dit au sujet du courage, mais... Déjà, ces grandes lignes peuvent aider à débroussailler beaucoup de choses et à faire comprendre beaucoup de choses et à avoir des nouvelles lignes de recherche pour comprendre encore davantage afin de pouvoir mieux être maître de soi par l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous a donné cette façon de s'exprimer, ce langage. Merci Seigneur Jésus pour notre belle langue française, et je te prie que nous puissions vraiment bien étudier les mots, leurs valeurs, et que nous sachions appliquer la valeur de ces mots dans notre vie bien à propos. Merci Jésus de prendre chacun de nous, de prendre courage là où il est, en nous-mêmes, par notre simple foi, dans le nom de Jésus. Amen.